Sinon, je vous propose d'ouvrir nos Bibles pour méditer la parole de Dieu ensemble. Et je vous propose d'ouvrir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Et nous lirons les versets 6 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 6 à 10. Si je prends ce texte, principalement, c'est pour vous parler de Paul, l'apôtre Paul, que l'on considère comme le missionnaire par excellence, l'homme à suivre, l'exemple, à peut-être même donner le vertige à certains, et là, peut-être de le voir avec un autre regard ce matin. Donc 2 Corinthiens 12 à partir du verset 6. Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Paul a de quoi faire le fier, mais il ne veut pas le faire. Il a peur que nous le prenions pour supérieur de ce que l'on voit ou entend. Et j'aurais envie de dire qu'il a peut-être raté son coup. On le voit certainement supérieur à ce qu'il est ou ce qu'il a été et de ce qu'il a fait. Et il nous dit que pour le garder dans l'humilité, Dieu lui a donné cette écharde dans la chair. On n'a toujours pas compris ce que c'était que cette écharde exactement, mais en tout cas quelque chose qui l'oblige à garder sa simplicité et son humilité. Et cela lui permet de comprendre et de vivre cette parole de Dieu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et le verset 10, là, nous dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses. » Et si on reprend chaque élément, chaque terme de cette liste-là, le tableau n'est pas très réjouissant. Faiblesse, outrage, désarroi, persécution, angoisse. Il devrait peut-être se faire suivre par un psychiatre, C'est pas très joli. Même si ce que l'on retient, c'est sa force et c'est ses fruits ou c'est le travail qu'il a fait, il a des faiblesses importantes. Je pense que c'est important qu'on puisse aussi le réaliser. Et il aimerait que nous retenions sa faiblesse plus que sa force. Mais la réalité que nous avons aujourd'hui, que nous retenons, et ce Paul qui nous a enseigné, qui nous a écrit tant de lettres qui sont dans le Nouveau Testament aujourd'hui, qui nous nourrissent, qui nous permettent de nous conduire aussi sur la foi de la sainteté, avec un parcours impressionnant où il va créer des églises au Moyen-Orient, en Turquie, en Grèce, en Europe. Un travail, je dirais, dans une vie qui nous paraît monumentale, à rendre jaloux tous les évangélistes, même s'ils sont saints et parfaits, étant donné les fruits qu'il a pu porter. Mais ce que Paul aimerait, et ce que j'aimerais que l'on réfléchisse ce matin, c'est que nous retenions ces faiblesses, qui sont certainement beaucoup plus proches de ce que nous sommes et de ce que nous vivons que cette image auréolée de Paul, ce fabricant de tentes et qui crée des églises à tire-larigot toutes les semaines. Allez, hop, une nouvelle église. Et je viendrai vous visiter dans 3 ans. Alors c'est vrai que cette liste du verset 10 est inquiétante et ne nous semble pas très réaliste de quelqu'un qui est là et qui va de ville en ville, qui est toujours en contact avec de nouvelles personnes et qui garde aussi les contacts, et on le voit dans ses lettres, il reprend contact, il reprend, il soutient, il supporte. Et quelque part, ce qui ne nous rend pas concret cette liste-là, c'est qu'elle n'a pas de réalité pour nous. On a du mal à voir, mais quand est-ce qu'il a eu des angoisses ? Vraiment, il nous en parle pas dans ses lettres, il nous en parle pas dans le livre des Actes. Et j'aimerais faire ressortir quelques points faibles que l'on peut égrener au cours des pages, parce que c'est pas très clair et en tout cas les auteurs du livre, Luc dans les Actes ne s'intéressent pas vraiment aux faiblesses de Paul, mais on peut voir quand même par-ci par-là quelques éléments. Actes chapitre 9, c'est le récit de la conversion de Paul sur le chemin de Damas, cette lumière. Et on voit que dès la fin du chapitre 9, il n'y a pas tout à fait la fin du chapitre 9, il a déjà des difficultés. Donc, c'est un persécuteur de l'Église qui va à Damas pour mettre en prison des chrétiens. Sur ce chemin, il se convertit et il se met à prêcher à Damas. Je ne sais pas si vous auriez très confiance de lui céder la chair, là, sachant qu'il a une lettre dans sa poche pour vous mettre en prison. Alors, on peut comprendre que ce n'est pas si simple. Hein. C'est ce qu'on nous dit, là, donc, acte 9, verset 20. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient, stupéfaits, disaient, « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre eux, contre ceux qui invoquent ce nom ? N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener devant les grands prêtres ?» Cependant, Saul était de plus en plus puissant et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Alors, on nous dit qu'il est puissant, qu'il confond les Juifs. On ne nous dit pas s'ils se convertissent. On nous dit que Pierre, en acte 2, il y avait 5000 personnes qui se convertissent à la fin de son discours. Là, ils sont confondus. Il était de plus en plus puissant. Alors donc, ça veut dire qu'il manifestait certainement les puissances par le Saint-Esprit. Mais on ne sait pas s'il y a un véritable résultat ou fruit de ce qu'il fait. Après bien des jours, les Juifs résolurent de le supprimer. Voilà. Là, c'est déjà... C'est plus lui qui va supprimer les chrétiens, c'est déjà maintenant c'est les Juifs qui disent celui-là. Et Saul eut connaissance de leur complot, il surveillait même les portes de la ville jour et nuit pour le supprimer. Mais de nuit, ses disciples le prirent et le descendirent dans une corbeille le long de la muraille. Donc il est sorti de Damas et où il va ? À Jérusalem. Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé, comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Alors ce qui m'intéresse là, c'est de voir que Barnabé, qui était certainement parmi les premiers chrétiens convertis, avant Paul déjà, qui était responsable d'une communauté, on nous dit qu'il est prophète, et quelqu'un qui a vu Paul dans ses premiers pas. Et quelque part, il a confiance en Paul et il veut le porter, le soutenir. Quand tout le monde avait peur de lui, Barnabé arrive avec sa sagesse, avec son autorité, je dirais, et dit, non, ne vous inquiétez pas, là, je le prends par la main, il ne vous fera pas de mal. Et permet donc, Barnabé va permettre... à ce que que Paul rencontre les responsables de l'Église, rencontre les chrétiens à Jérusalem, et grâce, quelque part, à Barnabé. Il parle toujours aux Juifs à Jérusalem, et il fait tellement d'évangélisation qu'il est obligé de se sauver, et on l'envoie d'abord à... sur la côte, là, à Antioche. On l'envoie à Antioche, où il ne reste pas. En fait, à Antioche, il prend le bateau et on l'envoie à Tarse, dans son village natal. On dit, bon, on va calmer un peu les histoires. Au chapitre 11 du livre des Actes, on voit à partir du verset 22, Étienne vient d'être... tué. Antioche, il y a des chrétiens un peu de partout. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et on envoya Barnabé en lui demandant de passer à Antioche. Donc on a encore ce Barnabé qui est là. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit et les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule importante se joignit au Seigneur. Donc témoignage des Juifs convertis déjà à Antioche et Barnabé qui remet une couche quelque part. Il partit ensuite chercher Saul à Tarse. Après l'avoir trouvé, le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'Église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc Paul, quelque part, s'est caché un peu à Tarse, mais qui va chercher Paul à Tarse maintenant ? C'est Barnabé qui va le rechercher et qui l'amène là. Acte 13, donc les trois premiers versets sont connus, où en fait l'église d'Antioche prie, jeûne et met à part Paul et Barnabas, et Barnabé ou Barnabas là, pour dire, vous allez, mettez-moi à part Barnabé et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, donc hein, c'est l'Esprit Saint qui leur dit ça. Alors après avoir jeûné et prié, leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et donc, premier voyage missionnaire de Paul, accompagné de Barnabas. Ils vont à Chypre. Ils vont travailler à Chypre. Et on va savoir que quand de Chypre, Paul pense qu'il c'est bon d'aller en Asie mineure, en Turquie, d'aller de reprendre le bateau pour aller évangéliser là-bas, on nous dit que Marc, ou Jean appelé Marc, préfère retourner à Antioche et ne veut pas continuer la route avec eux. Pourquoi pas ? On ne savait pas qu'il était parti avec. En tout cas, il ne continue pas la route avec eux. Donc, ils retournent même à Jérusalem. Hein. Donc, ils vont à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre, à Derbe. Ils créent des églises, donc là, en Turquie. Et même... voilà. Donc, après ces créations d'églises, quelque part, ils reviennent... sur Antioche, et il y a de grosses discussions sur la question de l'observation de la loi. Et le chapitre 15 du livre des Actes nous présente ce désaccord, mais aussi ce débat que l'on va tenir à Jérusalem, que l'on appelle le premier concile. Alors aujourd'hui, dans l'Église catholique, on parle de Vatican II, de Vatican I, de... Bon, ça c'est le premier, acte 15. C'est le premier. Grosse discussion. Et grosse discussion amenée en partie par Paul, qui comprend pas que Pierre mange n'importe quoi, et dès qu'il y a un juif qui arrive dans la salle, puis, hop, il mange plus, il se met à part, il dit, bah attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? T'es où? Et alors, voyant qu'ils ne s'entendaient pas sur le sujet, ils amènent la grande question à l'église mère, à Jérusalem, il faut qu'on discute du sujet. Et on trouve donc une solution, et on en tout cas principalement, que les non-juifs n'ont pas besoin de la circoncision pour être chrétiens et pour vivre leur foi. Et là, au verset 36 de ce chapitre 15, donc à la fin du chapitre 15, où on a ces ententes, même théologiques, on pourrait dire, ce grand débat, quelques jours après, Paul dit à Barnabé, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Barnabé avait été décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc, celui qui les avait quittés après Chypre. Mais Paul estimait de ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qu'ils avaient quitté depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et là, on voit déjà que collaborer avec Paul, c'est pas toujours simple. On va avec Barnabé, on prend Jean avec Jean, surnommé Marc, certainement celui qui a écrit l'Évangile. Et voilà, lui s'en va, quand nous on continue, non, un bonhomme comme ça qui nous abandonne en route, moi, niette. Et ils se disputent, et quelque part, c'est Barnabé qui tranche, quoi, quelque part. Et alors, si on reprend au début, Barnabé était bien un chrétien avant Paul, bien en place déjà dans l'Église, donc quelqu'un de respecté, de quelqu'un voilà, qui ouvre la porte quelque part à Paul. Alors, on peut se demander que ce Marc, ce Jean surnommé Marc, là, était peut-être un petit jeune qui est en train de faire ses premiers pas dans l'évangélisation, et donc il est le disciple derrière Barnabé. Et semble-t-il qu'à Chypre, déjà, Paul prend l'ascendant sur Barnabé. C'est quelqu'un qui sait parler, qui sait haranguer les foules. Et Barnabé se met en second, en disant, de toute façon, il parle très bien. Moi, ça va. J'ai pas besoin de me mettre devant. Il fait le boulot. On est content. Et on peut penser que Marc, disciple de Barnabé, trouve quand même que Paul, là... est un peu orgueilleux, en fait un peu trop, devrait laisser un peu plus de place à Barnabé. Donc si c'est comme ça, si ça va continuer comme ça, moi, je me barre, on verra plus tard. Et donc quand Barnabé veut reprendre Marc, Paul lui dit « Attends, il me supporte pas, donc ça va pas. » Alors, on peut imaginer tout ce qu'on veut, le texte n'est pas très 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 large sur le sujet, mais dissension, en tout cas certaine, prêt à tout enflammer, en tout cas, Paul, bouillant, mais alors certainement pas très facile à vivre. Et là, on peut déjà un peu mieux comprendre ses outrages, ses faiblesses, ses désarrois que Paul travaillait avec lui, en plus avec un passé plus que lourd, et pas toujours facile à concilier. Il y a un autre passage sur lequel dans Acte 16, je pense qu'on connaît bien l'histoire de Paul et Silas qui priaient dans la prison. Et en fait, pourquoi ils étaient en prison? Parce que on a... c'est là. Il y avait une femme avec un esprit de python là qui les suivait. Ces gens, alors elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens sont des esclaves du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Comme elle faisait cela déjà depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit « Par le nom de Jésus-Christ, je t'enjoins de sortir d'elle. » Et il sortit à ce moment-là. Et paf, l'argent, le gain du propriétaire de cette femme là, disparaît et ils mettent Paul et Silas en prison. Et on nous met bien dans le texte Paul excédé. Est-ce que c'était une bonne situation? Est-ce que c'était une bonne réplique? Est-ce qu'il avait raison de le faire? Bon, Luc, qui écrit le texte des Actes, ne prend pas position, mais on peut penser quelque part qu'il a perdu ses moyens, il a perdu sa patience, et bon, il chasse le démon. Quelque part, il a délivré la femme. On ne sait pas ce qu'elle devient, mais celui qui utilisait cette femme pour ses bénéfices n'est pas très content et se retrouve donc mis en prison. Et là, on voit encore pointer quelque part quelques éléments négatifs, je dirais, de Paul. Voilà, je ne vais pas, je pense, aller beaucoup plus loin. Dans ce tableau peut-être un peu un peu noir là, même si je pense que on sent plus, je dirais, l'humanité de Paul en soulevant ces points un peu négatifs. Hein, ce persécuteur qui se retrouve persécuté parce qu'il change de discours. Ce Paul qui s'énerve là, qui se met en conflit avec Barnabé et avec Marc, on voit déjà quelqu'un, j'aurais envie de dire qui nous ressemble un peu plus, qui descend un peu de son piédestal sur lequel on le met, et où on va peut-être pouvoir y prendre de la graine en se disant, ben moi je suis pas parfait, mais Dieu peut m'utiliser comme il a utilisé Paul, et Paul le dit, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Et je pense que nous avons aussi à apprendre que c'est dans notre faiblesse que Dieu peut être fort et qu'il peut faire des miracles par nous, au milieu de nous, avec nous, parce qu'on se reconnaît dans cette faiblesse. Et alors je crois qu'on a aussi l'habitude, on a un peu des fois cette pensée que quelqu'un qui est missionnaire, c'est quelqu'un qui est vraiment baigné de la présence de Dieu matin et soir, jour et nuit, qui est heureux parce qu'il obéit à Dieu de partir au loin. Et en fin de compte, je pense que chaque missionnaire pourrait reprendre ces paroles de Paul. En disant, voilà, je vis aussi dans les faiblesses et dans les outrages, dans le désarroi, dans les angoisses. Et je pense qu'il ne faut pas penser, il ne faut pas penser que le missionnaire est celui qui est au-dessus de tout ça, mais qu'il est bien, quelque part au même niveau que nous. Seulement, il répond à un appel que Dieu lui a donné, comme nous répondons aussi à un appel que Dieu nous a donné. Et on aime bien cette parole du fondateur des églises baptistes allemandes qui dit « Derrière chaque baptiste, un missionnaire ». Alors, on est tous missionnaires et il ne faut pas penser que celui qui est parti, il est plus missionnaire que moi et qu'il est plus doué ou qu'il a plus de force que moi. Et je pense que nous devons ainsi apprendre l'humilité, laisser Dieu agir dans nos faiblesses, et prier Dieu pour que nos frères et nos sœurs qui sont sur le champ aussi puissent tenir fort dans les difficultés que sont les leurs. Alors, ce qui est en plus, je dirais, une difficulté supplémentaire du missionnaire que l'on pourrait dire international, c'est le fait qu'il ne vit pas dans sa culture, il ne vit pas dans un milieu où il connaît obligatoirement la langue ou les langues. Et donc aura plus de difficultés aussi à se nourrir spirituellement au sein de la communauté, au sein des autres, parce qu'il y a tellement de barrières et de difficultés qu'il a besoin aussi là de nos prières pour pouvoir continuer le ministère que Dieu lui a donné. Ce serait pour, dans ce cas-là, pour notre témoignage personnel, je dirais, sur le fait d'être dans des pays où on parle pas la langue. Hein, on a appris, nous, la langue qui est parlée dans l'extrême nord du Cameroun, mais bon, on ne l'apprend pas en trois jours. On met plusieurs semaines, mois, années pour arriver à maîtriser la langue. Et pendant toutes ces semaines, ces mois, ces années, vous allez au culte et vous ne comprenez rien. C'est bien joli, mais... Vous avez passé une heure et demie, deux heures et demie. Bon, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont prêché, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, on a peut-être réussi à trouver le texte biblique qui a été utilisé, parce que, en tout cas, au Cameroun, souvent, ils mettent au tableau, ils mettent le texte biblique sur lequel on va prêcher. Donc, vous arrivez à retrouver le texte. Vous vous dites, bon, ils ont peut-être dit ça, hein. Et je sais que Gudrun s'est nourrie du coup par ça, en faisant comme Inke, en prenant l'école du dimanche et en préparant une leçon pour les enfants. Et du coup, elle s'est nourrie d'elle-même parce que aller à l'église était trop difficile pour tout comprendre, tout saisir et se nourrir. Alors moi, je prêchais le dimanche, donc j'avais pas trop de mal. Moi, je me comprenais. Donc, ça allait. Et alors, j'essayais à ce que le traducteur me comprenne aussi. C'était... Alors, au fil des années, on a pu aussi parler dans leur langue. Mais c'est vrai que ça a mis du temps. Et une situation comme le Cameroun, où on a 360 langues dans le pays, vous ne parlez jamais la langue de tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour notre méditation. Que Dieu bénisse sa parole.